Chapitre 18. Sauvetage. Dès l'instant où la porte extérieure du sas s'était refermée sur Curnow et Brailovski, les rôles s'étaient subtilement inversés. L'Américain était maintenant chez lui, tandis que le Russe se sentait hors de son élément, mal à l'aise dans le labyrinthe de couloirs et de tunnels obscurs de Discovery. En théorie, Max connaissait la disposition du vaisseau, mais seulement pour en avoir étudié les plans. Tandis que Curnow avait travaillé plusieurs mois dans le frère jumeau de Discovery, encore inachevé, et pouvait littéralement retrouver son chemin les yeux bandés. Ils avaient du mal à progresser, cette section du vaisseau était conçue pour l'apesanteur, et le peu de gravité artificielle engendrée par la rotation incontrôlée semblait toujours les entraîner dans la mauvaise direction. « La première chose à faire, » grommela Curnow en s'accrochant à une poignée après une glissade de plusieurs mètres dans un couloir, « c'est d'arrêter cette foutue rotation, et on ne peut pas le faire avant d'avoir rétabli le courant. J'espère seulement que Dave Bowman a mis tous les systèmes en attente avant d'abandonner le vaisseau. »« Es-tu certain qu'il l'a abandonné ? Il a pu avoir l'intention d'y revenir ? Tu as peut-être raison. Je pense que nous ne le saurons jamais. Lui-même n'en savait peut-être rien. » Ils étaient maintenant dans la salle des modules, le garage spatial de Discovery, laquelle abritait normalement les trois modules sphériques destinés aux activités extérieures. Il ne restait que le numéro 3. Le numéro 1 avait été perdu lors de l'accident mystérieux où Frank Poole avait trouvé la mort, et le numéro 2 était là où Dave Bowman l'avait emmené, où que ce pût être. Il y avait aussi, en attente dans la salle des modules, deux combinaisons spatiales accrochées à la paroi, sans casque, évoquant désagréablement deux cadavres décapités. Il ne fallait pas grand effort d'imagination, et celle de Brailovski fonctionnait à plein régime, pour les remplir de toute une ménagerie terrifiante. Il n'est guère surprenant, mais néanmoins regrettable, qu'à ce moment, Curnow n'ait pu réprimer son humour puéril. « Max, » dit-il, parfaitement sérieux, « quoi qu'il arrive, promets-moi de ne pas aller chercher le chat dans le vaisseau. » Brailovski, pris au dépourvu, hésita une fraction de seconde et faillit répondre « Je voudrais vraiment que vous n'ayez pas dit cela, Walter. » Mais il se retint à temps. Pas question d'exposer ainsi ses points faibles, au lieu de quoi il répondit « J'aimerais connaître l'imbécile qui a mis ce film-là dans notre vidéothèque. » « Probablement Katerina, pour vérifier notre équilibre mental. De toute façon, la semaine dernière, quand on l'a regardé, tu étais mort de rire. » Brailovski ne dit rien. C'était vrai. Mais c'était à bord de Leonov, dans la chaleur d'un environnement familier au milieu de ses amis, pas dans une épave glacée, hantée, où il faisait noir comme dans une tombe. Même pour l'être le plus rationnel, il était facile d'imaginer quelque créature féroce, implacable, en train de rôder dans ses couloirs à la recherche de sa proie. « Tout est de ta faute, grand-mère, que la toundra sibérienne soit légère à tes vieux os. Si seulement tu ne m'avais pas rempli la tête de toutes ces légendes épouvantables. En fermant les yeux, je vois encore la cabane de Baba Yaga debout sur ses pattes de poule dans sa clairière au milieu de la forêt. À cette bêtise, je suis un jeune et brillant ingénieur affronté au problème technique le plus difficile qu'on puisse imaginer et il ne faut pas que mon ami américain sache que je ne suis parfois qu'un petit garçon terrifié. Les bruits se mettaient de la partie. Des sons de toute nature, et si légers qu'il fallait un astronaute expérimenté pour les déceler, malgré ceux que produisait son propre scaphandre. Max, habitué à travailler dans un silence absolu, ne pouvait s'empêcher de les trouver inquiétants, même s'il savait parfaitement que les craquements et les grincements intermittents venaient presque certainement de la dilatation thermique à mesure que le vaisseau tournait comme un poulet sur sa broche. Si faible et si lointain fut le soleil, il y avait encore une différence de température sensible entre l'ombre et la lumière. Même sa combinaison lui paraissait bizarre maintenant qu'il y avait de l'air à l'extérieur. Toutes les forces qui s'exerçaient sur ses articulations s'étaient insensiblement modifiées, et il ne pouvait plus sentir ses propres mouvements avec la même précision. « Je ne suis qu'un débutant et je recommence l'entraînement à zéro », se dit-il, en colère contre lui-même. « Il est temps de faire quelque chose pour me changer les idées. » « Walter, je vais voir si l'air est respirable. La pression correcte, la température… Aïe, 105 degrés au-dessous de zéro. Un bon hiver russe pour vous ravigoter. » et puis l'air de ma combinaison m'empêchera de geler. Alors vas-y, mais attends que je t'éclaire pour voir si tu ne deviens pas tout bleu. Et ne t'arrête pas de parler. » Brailovski déverrouilla son casque et souleva la visière. Il eut un choc en sentant les doigts glacés lui caresser les joues, renifla prudemment, puis respira profondément.
« Frisquet, mais je n'ai pas les poumons gelés. Il y a une drôle d'odeur aussi. Moisi, pourri, comme si quelque chose... Oh non !»
Très pâle, soudain, Brailovski referma sa visière d'un coup sec. « Qu'est-ce qui se passe, Max ?» demanda Curnow, brusquement pris d'une véritable inquiétude. Brailovski ne répondit pas. Il semblait avoir du mal à retrouver son sang-froid, presque au bord d'un accident horrible et souvent fatal aux astronautes. Vomir dans une combinaison spatiale. Le silence se prolongea. Curnow prit un ton rassurant.
« J'y suis. Mais je suis sûr que tu te trompes. Nous savons que Poole a disparu dans l'espace. Bowman a indiqué qu'il avait éjecté les autres, ceux qui étaient morts en hibernation, et nous pouvons le croire. Il ne peut plus y avoir personne ici. En plus, il fait trop froid. »
Comme dans une morgue, faillit-il ajouter, mais il se retint juste à temps.
« Mais suppose, murmura Brailovski, suppose seulement que Bowman ait réussi à revenir sur le vaisseau et qu'il y soit mort. »
Il y eut une pause encore plus longue. Puis Curnow, d'un geste délibéré, ouvrit sa propre visière. Il tressaillit sous la morsure de l'air glacé et plissa le nez d'un air de dégoût.
« Je vois ce que tu veux dire,
mais tu te laisses emporter par ton imagination. Je te parie à 10 contre 1 que cette odeur vient de la cuisine. » De la viande qui a dû pourrir avant que le vaisseau ne se refroidisse. Et Bowman devait être trop occupé pour faire le ménage. J'ai connu des appartements de célibataires qui sentaient plus mauvais que ça.
Tu as peut-être raison. Je l'espère.
Bien sûr que j'ai raison. Et même si ce n'est pas le cas, bon Dieu, quelle différence y a-t-il? On a un travail à faire, Max. Si Dave Bowman est encore là, ce n'est pas notre affaire. N'est-ce pas, Katerina?
Il n'y eut pas de réponse du chirurgien-major. Ils avaient pénétré trop loin à l'intérieur du vaisseau pour que la radio fonctionne. Ils étaient donc livrés à eux-mêmes, mais Max reprenait rapidement ses esprits. « C'est une chance, se dit-il, de travailler avec Walter. L'Américain avait parfois l'air un peu mou et insouciant, mais il était parfaitement compétent et dur comme l'acier quand c'était nécessaire. Tous les deux, ils allaient ramener Discovery à la vie et peut-être vers la Terre. »